Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier et bienvenue pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Et comme chaque semaine, à mes côtés, pour guider mes pas, comme disait Ophélie Winter dans les années 90, Monsieur Maxime Dupuis, au moins autant maquillé qu'Ophélie Winter aujourd'hui. Maxime, comment ça va?
J'allais te dire que tu étais tout en beauté, Martin, donc toi aussi j'ai l'impression que tu as fait quelque chose pour ta peau.
Alors, pour bien que tu sois un peu. Si vous écoutez notre podcast, il faut que vous alliez voir les images sur eurosport.fr parce qu'aujourd'hui avec Maxime, on s'est maquillé. Voilà, on a eu un tuto maquillage hier. Et donc, faut que vous nous disiez si ça change quelque chose ou pas.
C'est important. Alors, Martin, je te verrais bien là, vu ton teint. T'as le teint un peu blafard quand même. Tu te verrais bien dans Six Feet Under, tu vois.
un petit peu. Je suis un petit peu blafard. C'est à cause du temps qui ne nous gâte pas. Voilà,
c'était. Et oui, qui ne nous gâte pas.
Evin Delia.
Oui, j'allais dire que t'étais. Comment ?
On démarre peut-être, Maxime, ou non ? T'allais dire.
Non, j'allais te dire non. J'allais te complimenter sur ton teint, justement, très bien. Et puis, j'ai demandé comment s'est passée ta semaine, si elle a été bonne avant de retrouver nos amis pour ce. Combienième épisode du FC Stream Team ? Ça fait.
Je ne sais pas, je ne compte plus. Ça fait depuis 2016 quand même qu'on est là. Hein. Alors, pas toujours en podcast, mais ça fait quand même 4 ans. Donc,
pas une ride,
Pas une ride et surtout avec le maquillage. Allez, on va démarrer cette émission avec le sommaire et on parlera dans la première partie de l'émission de l'OL. Qui Lyon doit-il vendre en priorité? Vous savez, il y a beaucoup de joueurs sur le marché, Dembélé, Depay Aouar et Jeffrey Nadelaïd aussi qui s'est mis tout seul comme un grand. Ce sera la première partie de notre émission. On se demandera, pour dégager les 50 millions d'euros que Lyon doit acquérir pour avoir des contres à l'équilibre, qui est-ce qu'il faut vendre en priorité, Maxime? Ensuite, on ira du côté de Marseille.
D'un Olympique à l'autre, l'Olympique de Marseille. Vendredi, Florian Thauvin a donné une excellente interview dans le quotidien L'Équipe où il explique que il est en fin de contrat. Ça, on le savait déjà, mais on comprend derrière entre les lignes, même pas entre les lignes, qu'il serait bien s'il pouvait rester, ça lui irait très bien. Mais s'il reste, c'est pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que il veut avoir les clés du camion, il veut être augmenté, ça se sent bien. Nous, on va se poser la question suivante: est-ce que l'Olympique de Marseille a intérêt à prolonger Florian Thauvin à tout prix? Ce sera le deuxième sujet du FC Stream Team.
Et on terminera, vous le savez, Luis Suarez a quitté le FC Barcelone cette semaine pour rejoindre l'Atlético Madrid. C'est une petite sensation dans ce mercato, on ne s'y attendait pas forcément, mais Ronald Koeman a mis tout le monde d'accord. Et on va se poser cette question, Maxime: qui est le plus grand neuf du Barça? Est-ce que c'est Luis Suarez ou est-ce que c'est Samuel Eto'o? Petit spoiler avec Maxime, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout d'accord. Voilà, on a fait le tour.
Et moi, j'ai très envie de voir Luis Suarez dans son nouveau club. Parce que s'il joue avec Diego Costa, ça promet et on devrait plutôt se régaler. Et une pensée pour les défenseurs qui vont les avoir en face.
Les défenseurs, donc, Maxime.
Non, j'ai dit les défenseurs.
Donc, si vous voulez nous voir maquiller, vous allez sur eurosport.fr où tous les meilleurs moments de cette émission sont mis en ligne. Voilà. Et si, Maxime, les gens veulent écouter le podcast, comme ils sont en train de le faire, d'ailleurs, on vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Je vous chatouille les oreilles. Là, je vous fais un petit bisou. Dans les oreilles. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire, Maxime, si on veut s'abonner à notre émission?
D'ailleurs, c'est une mise en abîme parce qu'on demande aux gens qui nous écoutent d'aller nous écouter. Tu vois le truc un peu?
C'est vrai.
Alors, pour vous abonner, on va dire, parce que c'est ça le plus important, puisque vous êtes déjà avec nous, a priori, si vous m'écoutez maintenant, vous allez sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, et vous vous abonnez, justement. Ça vous permet quoi ? Un, de recevoir le podcast dans votre téléphone ou ailleurs le moment où il sort. Et puis nous, ça nous fait remonter aussi dans les classements. Vous mettez aussi 5 étoiles, ça nous fait encore plus remonter dans les classements. Et ça fait très très plaisir à Martin, qui vous fera une bise à chacun d'entre vous qui aura mis 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast de France.
Ouais, je m'y engage. Un bisou par personne qui a mis 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Allez, on démarre avec l'OL, Lyon et Jean-Michel Aulas qui a pris la parole hier dans les colonnes du Progrès pour nous dire que Lyon ne vendrait pas ses 3 joueurs, à savoir Dembélé, Depay et Aouar d'ici le 5 octobre. Mais malgré tout, il y a une vraie équation aujourd'hui à laquelle est confronté l'OL. Il faut vendre pour 50 millions d'euros pour équilibrer les comptes. L'effectif est très déséquilibré. On a des joueurs aux caractéristiques qui sont très proches. Il faut soulager la masse salariale. Lyon n'a pas de Coupe d'Europe cette année, donc il va y avoir moins de rentrées d'argent. Il va y avoir un calendrier aussi assez maigre, peut-être trop maigre pour faire briller tout le monde. Donc, il faut nécessairement vendre. Il y a 3 joueurs à la base qui étaient candidats à un départ cet été. Memphis Depay, qui reste un an de contrat, Oussem Aouar et Moussa Dembélé. Avant le 5 octobre, ces 3 joueurs sont toujours là et il y a un homme un peu surprise, qui s'est invité dans la danse, Jeffrey Adelaide, qui par une sortie a annoncé qu'il voulait quitter l'Olympique Lyonnais parce qu'on ne lui faisait pas assez confiance. Donc parmi ces 4 hommes-là, on va essayer de voir avec Maxime qui Lyon devrait vendre en priorité, parce qu'il y a aussi des jeunes derrière hein, qu'il faut faire grimper, qu'il faut faire monter et qu'il faut aussi exposer pour les vendre dans les années futures. Qui vendre, Maxime, selon toi? On va peut-être démarrer par Memphis Depay, peut-être, Maxime, si ça te va. Memphis Depay, à qui on rappelle juste, il reste un an de contrat. Il est à peu près estimé à 20 millions d'euros. Il y a un vrai intérêt du FC Barcelone qui, en plus, vient de vendre Luis Suarez. Maxime, sur le cas de Paille, qu'est-ce que tu en penses, toi?
Memphis Depay, tous les ans, il est partant, en quelque sorte, tout simplement, parce qu'il répète à l'envi, moi, je suis trop gros pour l'Olympique Lyonnais. Moi, je dois jouer dans un club comme le Real, le Barça, etc. Et là, on arrive, en effet, à un carrefour, c'est-à-dire qu'il revient d'une grave blessure, mais il lui reste un an de contrat. Et a priori, coup de peau, le Barça l'aime bien, puisque Ronald Koeman est le nouvel entraîneur du FC Barcelone et auparavant était son sélectionneur en équipe des Pays-Bas, où ça marchait plutôt pas mal. Problème entre guillemets, j'en vois deux, c'est que a priori Bartomeu aurait dit à Jean-Michel Aulas, on est un peu à sec, on va pas pouvoir l'acheter. Je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt XXL en fait du Barça pour Depay, même si l'avoir ce serait pas trop. Et aussi l'autre problème, parce que on parle toujours du côté des clubs, et ben assez paradoxalement, je suis plus très certain que Memphis Depay a envie de quitter Lyon cette année. La raison est simple, mettez-vous à sa place, il revient de blessure. Alors même si c'est quelqu'un qui n'a pas de manque de confiance en lui, peut-être qu'il est en train de se dire qu'une année à Lyon, là où il est établi, une année avant l'Euro, là où il espère frapper un grand coup, ce sera pas mal. Et surtout, comme tu l'as dit, il lui reste un an de contrat, ce qui signifie qu'au 1er janvier 2021, il est totalement libre. Et qui dit libre pour les clubs en face, dit moins cher. Et qui dit libre aussi pour lui, dit un salaire sans doute plus gros, avec une belle prime à la signature, puisque le club n'aurait pas à payer d'indemnité de transfert. Donc, Depay, on est vraiment à un carrefour et très compliqué. Et plus ça va, moins je le vois quitter l'OL pour le coup.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi pour son intérêt à lui, parce que je pense que ce n'est pas tous les jours que le FC Barcelone viendra chercher Memphis Depay. Et je pense que même quand il sera en fin de contrat l'année prochaine, il n'est pas dit que le FC Barcelone qui est dans une phase de reconstruction. Je pense que là, qu'il y a un train à prendre pour Memphis Depay et qu'il faut vite qu'il y aille après. Est-ce que c'est l'intérêt de Lyon de le vendre 20 millions d'euros ou de le voir partir libre ou de prendre le risque de le voir partir libre la saison prochaine? Moi, je pense que ce n'est pas forcément l'homme qu'il faut vendre en priorité. 20 millions d'euros, on le dit, hein, Lyon cherche 50 millions d'euros. Depay, il est important aussi pour l'Olympique Lyonnais parce que c'est le seul, c'est le dernier grand joueur qu'a l'Olympique Lyonnais. Quand je parle de grand joueur, je parle de star. Hein. Oussem Aouar, oui, est un grand joueur, mais il incarne quand même les ambitions lyonnaises. Et déjà qu'il n'y a pas de Ligue des Champions cette année, si en plus tu enlèves Memphis Depay, qui est ton seul grand international installé, grande star qui a joué à Manchester United, etc., c'est le seul qui a une dimension internationale. Eh ben, tu t'engages quand même dans une saison franchement monotone. Quoi.
Et surtout pour en revenir à Bartomeu, quand il dit à Aulas, on n'a pas les moyens finalement, on ne va pas le prendre, il y a peut-être une part de bluff, ça on ne peut pas le savoir. Donc, ce qui veut dire que ça sous-entend que les 20 millions demandés sont trop chers. Donc est-ce qu'il vaut mieux vendre, Depay pour 12 millions ou le garder une saison de plus en espérant qu'il vous propulse vers Ligue des Champions? Moi, je serais tenté... le calcul est vite fait parce que, encore une fois, oui, à la fin de l'année, il faut 50 millions. Oui, il faut de l'équilibre à la fin de l'année. Mais si Depay vous propulse une année de plus, une nouvelle année en Ligue des Champions, l'intérêt, on sait où il est. Donc, c'est un cas qui est compliqué. Mais en fait, on se rend compte aussi que pour l'OL, là, tous les cas sont compliqués parce que le deuxième joueur qui est sur la liste s'appelle Oussem Aouar. Et ce qui semblait un peu inscrit, dans le marbre, qu'il allait partir pour un gros club, d'autant qu'il y avait eu une formidable campagne de Ligue des Champions, c'est plus si clair que ça, Martin.
Pour moi, c'est la plus grosse valeur marchande de l'Olympique Lyonnais. Lyon attend 60 millions, je pense qu'à 50 millions, il commencera à craquer, nos amis lyonnais. Il ne faut pas se tromper. L'Olympique Lyonnais, c'est un club formateur dont la force réside dans la vente de ces joueurs-là qui sortent du centre à leur prime quand ils valent beaucoup d'argent. Oussama Aouar, je ne suis pas sûr qu'il vaudra aussi cher un moment dans sa carrière. Je m'explique, il sort d'une campagne de Ligue des Champions absolument sensationnelle. Alors, il y a un contexte économique qui, c'est vrai, fait un peu mal. C'est-à-dire que Aouar, sans le Covid, vaudrait peut-être beaucoup plus cher. Mais il ne va pas jouer de Ligue des Champions l'année prochaine. Le garder un an de plus, c'est prendre le risque qu'Oussem Aouar, que sa valeur, elle soit en chute libre. Parce que là, aujourd'hui, il a montré ce qu'il savait faire sur la scène européenne. On l'a vu la saison dernière qu'en Ligue 1, ce n'est pas toujours ça. Il est un peu irrégulier. Autant surfer sur la campagne de Ligue des Champions qui a amené Lyon, quand même, rappelons-le, en demi-finale de la C1. Et puis, ça fait partie du deal aussi. Aouar, il a fait son temps, j'allais dire, à l'Olympique Lyonnais, comme Umtiti, comme Tolisso, comme Lacazette avant lui. C'est toujours comme ça. Et enfin, dernier argument, il a un gros marché. Il a City, il a Arsenal, il a des clubs anglais. Donc, fatalement, je pense que laisser partir Aouar contre un gros chèque, eh ben, ça permettra à Lyon de rentrer dans ses frais. Au milieu de terrain, ils sont armés, les Lyonnais. Il y a Jeffrey Adélaïde qui est là pour prendre le flambeau si toutefois il ne s'en va pas. Mais s'il ne s'en va pas, c'est parfait pour Jeffrey Adélaïde. Il a été recruté aussi l'année dernière pour ça, pour prendre le flambeau. Donc pour moi, Oussama Aouar, c'est le candidat parfait à la vente avant le 5 octobre.
En fait, tu fais coup double si tu veux Aouar. Tu es censé récupérer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et peut-être éponger les besoins en un seul joueur. Et en plus, pour Jeffrey Adélaïde, peut-être que ça change l'état d'esprit et peut-être que l'OL peut clairement lui dire « on compte sur toi à ce poste-là ». Il y a autre chose aussi qui parle aussi dans le sens d'une vente cet été, c'est le cas de Nabil Fekir, souvenez-vous. Alors, ce n'est pas exactement pareil parce que lui, c'était un problème de visite, etc., médical, mais Liverpool, souvenez-vous quand même, ils étaient prêts à mettre entre 60 et 70 millions sur lui, que c'était fait finalement. Ça ne s'est pas fait, il est resté et l'année d'après, Betis Séville, je crois que c'est 25 millions quelque chose. Alors, c'est pas une paille, mais n'empêche que c'est pas le même prix, vous l'aurez bien vu. Donc je pense que là, l'OL, peut-être que c'est le moment de dire, écoute, Oussem, faut partir. Et puis pour le joueur, pour le coup, c'est aussi un petit kitoudoum, mais là, pour le coup, ce qui est très difficile à voir, c'est son intérêt. C'est-à-dire, je m'explique. Oussem Aouar, potentiellement, il a l'Euro à la fin de l'année, il vient d'être appelé en équipe de France. Est-ce qu'il vaut mieux rester à Lyon sans jouer de Coupe d'Europe, sachant l'importance qu'a la Coupe d'Europe aux yeux de Deschamps, ou tenter sa chance dans un grand club étranger et potentiellement jouer la Coupe d'Europe, avec le risque évidemment de moins jouer. Pour lui aussi, c'est compliqué, mais je pense que l'OL serait bien inspiré de lui dire « Écoute, s'il y a la somme, il faut que tu y ailles, parce que ce sera bon pour tout le monde. » Et à mon avis, c'est la solution la plus simple pour l'Olympique Lyonnais.
C'est une question de timing. Puis je pense qu'Aouar, il ne sera pas non plus surmotivé à l'idée de jouer une saison sans Ligue des Champions à un moment donné. Ça fait partie du cycle des jeunes Lyonnais et je pense qu'il est arrivé au moment où il faut partir. Ensuite, il y a Moussa Dembélé. Lui, c'est à peu près 40 millions d'euros. Lui, je pense que c'est le pire moment pour le vendre parce qu'il est dans une séquence très compliquée. Il n'est pas au sommet de sa forme, l'ami Dembélé. Il n'a pas de marché pour le moment. Il n'y a pas d'offres qui sont arrivées sur le bureau de l'Olympique Lyonnais pour lui. Et s'il y a des offres, je pense qu'elles viendront de clubs qui ne le satisferont pas. Dembélé, dans la progression de carrière, Celtic, Lyon, et derrière, ça doit être un tremplin. Et aujourd'hui, le tremplin, il est passé un peu à côté d'Embélé. Donc, je pense que c'est peut-être le plus mauvais moment pour le vendre, parce que s'il fait une bonne saison, il y a les clubs anglais qui le connaissent bien, qui l'ont déjà scouté. Il a joué à Fulham, hein, rappelons-le, et qui sont là, qui aiment ce genre de profil un peu à la Lukaku, si je caricature un petit peu. Donc, il y a un marché qui est en sommeil, mais il n'est pas là sur ce mercato d'été-là. Donc surtout, ne vendez pas Dembélé. Et surtout que c'est aujourd'hui un des seuls vrais attaquants de surface de l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs de couloir, beaucoup de milieux offensifs. On pense à Cherki, on pense à Depay, on pense à Jeffrey Adélaïde. On pense aussi à Toko Ekambi, qui est un joueur qui prend la profondeur. Dembélé, il a un profil un peu unique dans ce Lyon-là. Et je pense qu'il est important qu'il reste à l'Olympique Lyonnais pour toutes ces raisons cet été.
Ouais, c'est des quatre joueurs, c'est le cas le plus limpide, que tu l'as dit. Il n'est pas dans une bonne séquence, il a perdu de la valeur, le marché, il est ce qu'il est. Et du coup, il serait bien inspiré de rester une année, de se relancer. Et pourquoi pas, parce que, je le répète, je fais une fixette sur l'euro, mais il y a toujours ça au bout du chemin. Et ça vous fait gagner en valeur. Et c'est aussi une belle carotte pour rester à Lyon plutôt qu'aller ailleurs. Dans un club qui aujourd'hui ne correspondrait pas à l'exposition qu'il aimerait avoir pour l'équipe de France. En conclusion, vaut mieux rester à Lyon une année de plus, se relancer. S'il peut me taper la barre des 20 buts en championnat, ça aidera. Et pour le coup, ça servira à tout le monde, un peu comme Depay tout à l'heure. C'est que c'est du gagnant-gagnant pour les deux côtés.
Alors, il reste un cas un peu particulier, celui de Jeffrey Adélaïde. Alors, Lyon l'avait sans doute pas et même c'est certainement pas envisager un départ cet été. Il est arrivé il y a un an, Geoffrey Adelaide. Ça fait partie des joueurs, je vais dire post-formation, là on est quand même au-delà, mais disons des espoirs de Ligue 1 que Lyon aime bien prendre, valoriser, revendre plus cher. Donc c'est, ils l'ont acheté l'an dernier autour de 25 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises, à Angers. Bah, il n'a pas eu le rendement escompté parce qu'il a été barré à un moment donné, parce qu'il s'est blessé aussi. Et puis voilà, il n'a pas beaucoup joué, il ne s'est pas vraiment mis en valeur. Mais il a réclamé un départ, Geoffrey Adelaide. Et Rennes semble intéressé par son profil. On rappelle que Florian Maurice, qui était directeur sportif de Lyon, qui l'a fait venir à Lyon, aujourd'hui est à Rennes et veut le faire venir à Rennes. Est-ce qu'il faut vendre Geoffrey Adelaide à 30 millions d'euros? Je pense que Lyon serait plutôt vainqueur parce qu'il y aurait une plus-value sur un joueur qui n'a, j'allais dire, quasiment rien fait, mais qui n'a pas fait grand-chose du côté de l'Olympique Lyonnais. Ça lui permettrait de rentrer dans ses comptes. Mais le problème, c'est qu'aussi, ce n'est pas tellement la politique de l'Olympique Lyonnais de garder ce genre de joueur seulement une saison sans progrès notable. Normalement, il aurait dû casser la baraque et casser la banque aussi, Geoffrey Adelaide. Donc, je suis un peu mitigé sur Geoffrey Adelaide qui… Voilà, ça peut être de l'opportunisme, mais pas les affaires que font l'Olympique Lyonnais d'habitude.
En fait, je me mets des deux côtés, du joueur et du club. Partir, pour moi, c'est voir à court terme, c'est-à-dire pas avoir une vision long-termisme. Il a été blessé, comme tu l'as dit, une grave blessure, il est jeune. Alors oui, il a eu l'impression qu'on ne lui faisait pas confiance, et c'était le cas un peu avant d'ailleurs, sa blessure. Parce que...
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce qu'il a eu sa chance, il est rentré en jeu, ça a été parfois moyen. Je veux dire, on ne s'est jamais dit… Garcia l'a mis au placard, quoi.
Il y a quand même deux, trois fois où j'avais l'impression que Garcia ne le mettait pas ou le faisait sortir avant les autres. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais quoi qu'il en soit, c'est un jeune joueur. Et c'est vrai que sa sortie a un peu étonné parce qu'elle détonne. Et justement, Jean-Michel Aulas lui a fait savoir hier dans l'interview où il explique en gros, on n'aime pas trop les gens qui disent qu'ils veulent partir de l'OL et que ça peut se réparer, mais ce n'est pas sûr. Donc voilà, la porte est ouverte, on le sent. S'il y a une somme importante qui arrivait, bah, il le vendrait parce que c'est aussi dans l'intérêt de l'OL. Mais je me mets encore une fois aussi dans l'intérêt du joueur, c'est-à-dire que là, il irait à Rennes. Rennes, c'est très bien, c'est le club qui monte. C'est le club qui a une ambition intéressante sur le marché des transferts aujourd'hui. Mais j'ose espérer que ce n'est pas juste de dire parce qu'il y a la Ligue des Champions. Parce que la Ligue des Champions, si c'est pour jouer 6 matchs, voire 8, je lui souhaite à Rennes. C'est vraiment court-termiste, donc je suis toujours étonné des joueurs aussi jeunes qui déjà veulent quitter un club comme ça. Ouais, et surtout que Lyon c'était déjà un palier. C'est pas. On va en parler. Toi d'ailleurs, je vais faire un petit spoiler sur Wesley Fofana. Parce que je sais que tu voulais en parler. On n'est pas dans le cas de Wesley Fofana qui est dans un club de taille un peu moins grande que l'OL et qui se dit je veux partir en Angleterre. Là, lui, il a déjà franchi le premier palier. Et directement parce qu'il ne sent pas qu'on lui fait confiance.
Et Maxime, je vais te poser une question. Passer de Lyon à Rennes aujourd'hui, pour moi, ça reste quand même une régression.
Ah bah oui.
Aujourd'hui,
ah bah...
Rennes est un beaucoup plus petit club que l'Olympique Lyonnais.
Ah bah oui. Non mais t'as les...
malgré l'actualité, c'est mais vrai que c'est Rennes qui fera la Ligue des Champions, mais
oui, évidemment, c'est ce que je viens de dire. On est sur une logique court-termiste. Encore une fois, Rennes, c'est le club qui monte, c'est évidemment très intéressant. Il n'y a qu'à voir, on en a parlé sur Eurosport cette semaine ou la semaine dernière, c'est les cibles de Rennes qui sont intéressantes parce qu'on sent qu'il y a une ambition d'aller chercher des noms et des joueurs qui ne sont pas simplement... Ok, un mec comme Diego Godin, il est en fin de carrière, tout ça, mais quand même, ça marque les esprits. On se dit, bah, ce club-là, il essaye de faire quelque chose. Rennes, évidemment, c'est le club qui monte, et puis c'est pas pour rien qu'ils sont troisième du championnat l'année dernière. Mais comme tu le dis, on a le droit de regarder juste sur un an, se dire, bah, Rennes est meilleur que Lyon sur une année. Oui, sur les 10, 15 ans, et peut-être sur le futur, il y a sûrement plus de garanties à 7 heures à Lyon. Donc, en effet, je suis d'accord avec toi, ce serait une régression. Sur le papier, voilà, parce que. Et il faut savoir aussi qu'il ira à Rennes, mais s'il est aussi demandeur à Rennes et que dans un an il y a un club anglais qui le veut, il refera le même coup. Donc c'est quand même une situation très compliquée et je serais tenté de dire à Lyon, bah, s'il veut partir, si Rennes met 25-30 millions, s'il a ce qu'il voulait, allez-y, parce que de toute façon on ne peut pas garder un joueur contre son gré, mais ce serait quand même pour le coup un regret de ne pas le voir plus longtemps sous le maillot de l'Olympique Lyonnais.
Alors, ne pas garder un joueur contre son gré, la transition est magnifique, Maxime. La passe décisive est sublime. Là, on dirait Mesut Özil dans ses grandes années. Wesley Fofana est un cas qui pose question. Alors, toi, je ne sais pas ce que tu en penses, Maxime, mais alors, petit rappel, West Ham serait prêt à mettre 35 millions d'euros sur le défenseur stéphanois. Leicester a déjà fait parvenir une offre de 32 millions d'euros, hein, selon nos confrères de l'équipe. Wesley Fofana, on le rappelle, hein, c'est une demi-saison l'an dernier, puisque la Ligue 1 n'a joué qu'une demi-saison, fatalement. Il n'est pas encore, il n'est même pas international espoir, aucun match de Coupe d'Europe. Ce serait le plus gros transfert de l'histoire de l'AS Saint-Etienne. Dit comme ça, les dirigeants stéphanois seraient un peu stupides de ne pas laisser partir Wesley Fofana, qui en plus, de mon point de vue en tout cas, pour regarder beaucoup de matchs avec Saint-Etienne, et dégage moins de talent naturel qu'un William Saliba qui est parti pour moins cher à Arsenal. Malgré tout, les Stéphanois veulent le garder. Maxime, est-ce que toi tu comprends ou est-ce que tu laisserais filer pour 32 millions d'euros un joueur sur lequel finalement on a assez peu d'assurance, même s'il fait un très bon début de saison?
Bah moi, j'ai une vision très romantique du football et très, très légaliste-loyaliste. L'entraîneur du club s'appelle Claude Puel aujourd'hui. Il est en train de construire quelque chose. J'ai l'impression qu'on lui a donné le pouvoir pour le faire. La preuve, il a écarté
C'est pas une impression, hein. Il est au conseil d'administration.
Exactement. Il a écarté Ruffier et compagnie. Donc, en gros, il est en train de modeler la S Saint-Etienne à l'image qu'il souhaite, à son image. Il n'aime pas qu'on dise ça, Claude Puel, mais c'est quand même un formidable bâtisseur et je ne suis pas persuadé qu'il soit fait pour les énormes clubs. Mais c'est une qualité et aujourd'hui, lui, il a envie de garder Fofana, tout simplement. Il n'a pas envie d'ouvrir la porte parce qu'il a un plan sportif. Moi, je suis toujours étonné que notamment les supporters qui disent « oui, 32 millions, il faut le vendre, etc. » Pour moi, un supporter ne devrait pas se positionner comme ça. Moi, un supporter, c'est il a envie de voir son équipe gagner, il a envie de voir son équipe performer. Et est-ce que cette équipe a plus de chances avec ou sans Fofana ? J'ai la faiblesse d'imaginer que c'est avec Fofana. Évidemment, je ne suis pas dans les finances de la SSE et je n'ai pas à y être. Et je me positionne en tant qu'amateur de football. Je pense que ce joueur et que Puel, moi je le soutiens à fond là-dessus, je pense que Puel a raison de ne pas lâcher le joueur parce que c'est aussi le message que vous donnez à votre club et à votre équipe. C'est-à-dire que c'est une équipe de jeunes où les autres joueurs, parce que la Saint-Etienne est très bien depuis le début de saison, les demandes vont arriver pour les autres. Alors s'ils commencent à ouvrir la porte, et je comprends que ce soit très dur, je comprends que 35 millions d'euros, ça commence à faire, tu l'as dit, c'est le plus gros transfert. Et moi, personnellement, je ne bougerai pas. Ou sinon, je ferai un truc à la Saliba, c'est-à-dire, ok, vous le prenez, mais on le garde un an. Mais je ne bougerai pas, parce que sinon, c'est une forme de faiblesse. Et c'est aussi, il est en train de construire, et dès les fondations, il se met des bâtons dans les roues, donc moi, je ne le ferai pas, pour le coup.
On avait rencontré Claude Puel au mois de mars dernier, devant les caméras d'Eurosport, qui nous avait dit, moi, je regrette que la Saint-Etienne ait vendu William Saliba pour boucher un trou. Pour moi, il faut faire grandir les jeunes, bien sûr qu'ils partiront quand ils auront atteint, quand ils auront donné ce qu'ils ont à donner, et quand on aura aussi ciblé et recruté leurs remplaçants, que ce soit au centre, en post-formation, etc. Fofana, aujourd'hui, c'est un symbole. Fofana, c'est l'incarnation du projet Puel. J'en vois deux incarnations, c'est Fofana et Adil Aouchiche. Parce qu'Aouchiche est arrivé cet été, Saint-Etienne a misé très très gros sur lui, et ça signifie, voilà, tout ce que veut faire Puel est symbolisé par ces deux hommes, Fofana et Aouchiche. Si tu laisses partir Fofana, j'ai envie de dire presque quel que soit le prix, parce qu'à un moment donné, bon, quand on arrive à des sommes folles. Mais si tu laisses partir Fofana, c'est comme tu l'as déjà dit, Maxime, tu tires un trait, c'est un peu excessif, mais tu fragilises ton projet. Et surtout, du côté de la Saint-Etienne, quelque chose qu'on n'a pas dit, si les présidents donnent leur feu vert à une offre de 35 millions d'euros, personne ne sait quelle va être la réaction de Claude Puel. Parce que Claude Puel, c'est quelqu'un, et il le reconnaît lui-même, hein, d'assez entêté, d'assez buté, il sait ce qu'il veut. Il l'a montré avec Mvilla, avec Ruffier, avec Kazri, avec Boudebouze. Si demain, les présidents disent « Ok, c'est tout le projet, toute la maison verte qui peut s'écrouler parce que Claude Puel, il peut prendre ses clics et ses claques et s'en aller. » Ça, c'est une certitude. Ou partir… et il est, je le rappelle quand même, je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais il est au conseil d'administration de la Saint-Etienne. Bref, c'est lui qui tient ce club. Et quand on voit le début de saison, ça lui donne en plus les coups des franches à Claude Puel. Donc, ce dossier est d'une complexité folle. Moi, je pense qu'il est dans l'intérêt de Saint-Etienne de résister jusqu'au bout. Peut-être, et c'est sûr, qu'ils prendront un risque et que dans 6 mois, Fofana s'écroulera et qu'il ne voudra plus que 15 millions d'euros. C'est une possibilité. Pour moi, pour Puel, pour ce début de saison et pour tout ce qui est en train de mettre en place le Castres depuis un an, c'est un risque à prendre et c'est un risque qu'il faut prendre parce que de toute façon, à partir du moment où Saint-Etienne s'est engagé dans cette voie-là et a donné les pleins pouvoirs à Puel, eh ben, il faut le suivre jusqu'au bout. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon avis.
Ouais, et ça va faire bizarre de dire ça, mais le modèle, c'est le modèle lyonnais qu'il faut suivre à Saint-Etienne. C'est-à-dire, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Là, Fofana, il n'a rien donné, entre guillemets, à Saint-Etienne. Eh ben, il faut qu'il donne un an, peut-être 2 ans, ou peut-être un an simplement l'été prochain, mais au moins montrer ça. Et c'est important ce que tu as dit, c'est que derrière, si Puel ne le lâche pas non plus, c'est peut-être qu'il sent qu'il n'y a rien derrière. Parce que s'il y avait le petit jeune qui pousse et qui est exceptionnel, il se dit, lui, c'est bon, il est mûr. Ça ne serait pas exactement pareil. Là, c'est comme on est au début, bah, il faut mettre toute la machine en marche avec la formation, avec le recrutement, etc. Donc là, pour le coup, encore une fois, je pense que il n'y a pas un grand intérêt, hormis, ça fait bizarre de récupérer 35 millions. Mais moi, personnellement, je ferai comme Puel, je tiendrai bon.
Autre question qu'on peut se poser, Maxime, et là on va quitter Lyon et on va quitter Saint-Etienne, on va aller du côté de Marseille, c'est Florian Thauvin. Florian Thauvin qui a donné une interview aujourd'hui dans l'équipe, qui dit en gros, qui fait un appel du pied assez flagrant à ses dirigeants. Il veut être au centre du projet, il veut incarner l'avenir de l'Olympique de Marseille. Il attend qu'on lui propose une prolongation de contrat. Toute la question qu'on va se poser dans cette deuxième partie de l'émission, c'est est-ce que Marseille doit donner les clés de son avenir à Florian Thauvin ? Est-ce que Marseille doit le prolonger ? Ça, c'est une première chose. Mais est-ce qu'elle doit construire autour de Florian Thauvin ? Avec Maxime, une nouvelle fois, ah, ce n'est pas une nouvelle fois parce qu'il non, nous arrive quand même d'être d'accord. Hein. Mais avec Maxime, en tout cas, on n'est pas d'accord sur le cas Thauvin. Pour toi, Maxime, Marseille doit tout faire pour le retenir et pour construire autour de lui.
L'interview qu'il a donnée ce matin, vendredi matin, dans le journal L'Équipe, est limpide. En fait, on a l'impression qu'il est en train de dire « je peux partir, je vais partir ». Mais non, ce qu'il est en train de dire à ses dirigeants, c'est « j'ai pas eu de proposition de prolongation de contrat sur mon bureau ». J'en ai parlé au président Hérault, je ne comprends pas pourquoi, j'aimerais rester, au fond, c'est ce qu'on comprend. Et on en a déjà parlé, on en reparlera de Florian Thauvin. C'est vrai que le marché dont il rêverait, dont il a longtemps rêvé, celui des très grands clubs, ne vient pas à lui, pour plein de raisons dont on reparlera après. Florian Thauvin, donc, ce qu'il demande, en revanche, c'est « moi, je veux rester, mais je ne veux pas être un simple joueur dans cet effectif », ce qu'il n'est déjà pas, pour le coup. Il a envie, en fait, ça fait un peu écho à ce qui s'est passé avec Mandanda et Payet cet été, qui ont été prolongés. Avec une baisse de salaire, bah lui, il demande à peu près la même chose, sauf la baisse de salaire, parce que lui, évidemment, il veut une hausse, mais il n'est pas au même moment dans sa carrière qu'eux, puisque lui, il faut le rappeler, il a 27 ans, il est dans la force de l'âge, et que c'est, normalement, c'est ce qu'il dit, il doit être à son prime à ce moment-là, ce sont ses meilleures années. Alors, faut-il prolonger Florian Thauvin ? Bah moi, je vais dire oui, à tout prix. Alors évidemment, à tout prix, ça ne veut rien dire. Mais est-ce qu'il faut faire un effort sur Florian Thauvin ? Oui, évidemment. L'année dernière, auquel OM fait une formidable saison sans lui, mais il ne faut pas rappeler ce qu'il a fait avant. Il ne faut pas oublier aussi son attachement au club. Il ne faut pas oublier ses 22 buts en championnat. En 2018, il me semble, c'était le premier Marseillais à dépasser les 20 buts depuis un quart de siècle. Ce n'est pas rien. C'est un joueur qui compte et surtout qui est attaché à l'Olympique de Marseille. Donc pour tout ça, il faut le garder. Après, on va me dire, bah oui, mais faut pas à tout prix. Oui, mais si vous faites le bilan de Thauvin à l'Olympique de Marseille, il a été acheté 12 millions, si je ne m'abuse, à Lille la première fois. Il a été revendu 18 millions à Newcastle, pardon, puis racheté 11 millions. Donc ce qui fait que ça fait une moins-value pour l'instant de 5 millions. Et bah, 5 millions pour un joueur comme ça, avec tout ce qu'il a donné à l'OM, je pense que ça vaut le coup de le garder. Et aussi, tout simplement, quelque chose de très bête. Vous savez ce que vous perdez, vous ne savez pas ce que vous allez retrouver. Thauvin, si vous le prolongez, vous n'avez pas de transaction de transfert à aller chercher sur un joueur dont vous n'aurez pas de certitude. Prenez le cas, Radončić, il est venu, c'est bien, et pour l'instant, ça ne marche pas. C'est un Thauvin très, 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 très light. Donc moi, je pense qu'il y a pas d'intérêt, surtout aujourd'hui dans une période de crise. On voit que Marseille n'a pas forcément ce qu'il faut pour recruter très cher. Moi, pour moi, la question ne se pose même pas. Garder Thauvin à tout prix à l'Olympique de Marseille, un club qui, encore une fois, je vous le dis, a besoin de stabilité. Et d'avoir un joueur qui aime le maillot comme ça à l'Olympique de Marseille, ça fait du bien.
Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Maxime. Enfin, en partie, prolonger Thauvin, pourquoi pas, construire autour de lui. Qu'est-ce que veut l'Olympique de Marseille ? Que veut devenir l'Olympique de Marseille ? En fait, c'est cette question-là qu'on se pose quasiment avec le cas Thauvin. Parce que si tu donnes les clés du camion à Thauvin, hein, s'il devient ton meilleur joueur, si c'est lui qui doit incarner les ambitions de l'OM dans les, parce qu'il a 27 ans, on va dire quoi, dans les 4-5 années qui viennent, eh ben, ça en dit long sur les ambitions de l'OM, tout simplement. Ça veut dire que Marseille ne veut pas redevenir un grand club européen, un grand club qui peut gagner des trophées. Thauvin, j'aime beaucoup Florian Thauvin, je le trouve très bon. En Ligue 1, il a été très bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il a les épaules pour être le leader de l'Olympique de Marseille dans les 4-5 années qui viennent ? Pour moi, la réponse est non, parce qu'il n'a jamais montré cette force de caractère qui lui permettrait de passer le niveau suivant, en fait. Thauvin, la Ligue 1, c'est très bien. En équipe de France, c'est un but en 10 ou 11 sélections, je ne sais plus. En Ligue des Champions, même en Coupe d'Europe, le bilan, il n'est pas bon non plus. Dans les grands matchs, on sait qu'il a des limites. Thauvin, c'est presque quelqu'un de trop gentil. Pour moi, Payet a plus cette étoffe-là de leader. Prenez Payet à son meilleur niveau, et ben c'est bien meilleur que Thauvin à son meilleur niveau. Alors, je pense qu'à niveau constant, enfin, en moyenne, Thauvin regarde largement dans les yeux Dimitri Payet. Mais pour moi, il faut un joueur qui soit capable de mener Marseille, bah voilà, sur la scène européenne, de lui faire gagner les matchs qui comptent et de pas seulement lui faire gagner les matchs à Nîmes. Voilà. Et je pense que Thauvin, ouais, il a cette limite-là quand même.
Alors, Thauvin, sur les grands matchs, je trouve qu'on est très sévère parce que c'est en train de. Alors, il n'y a pas eu de saison dernière. Il marque au Parc des Princes notamment. C'est
Oui,
en
mais
train.
Maxime, il
Non,
fait,
non,
on ne
mais.
peut pas dire qu'il fasse un match
Ah non.
sensationnel au Parc des Princes non plus.
Oui, ah non, mais d'accord, mais qui marque le but, c'est quand même. Je suis
Oui,
d'accord avec toi.
oui,
Mais je pense que c'est en train de s'effacer un peu. Mais je suis d'accord avec toi. On n'est pas au niveau. Peut-être escompté. On n'est pas au niveau d'un Payet contre Lyon l'année dernière, par exemple.
oui.
Ça, on est
Ou
d'accord.
Payet en Ligue Europa, il amène, c'est lui qui amène Marseille en finale de Coupe
Ouais.
d'Europe, Dimitri
Après.
Payet.
Après, ce qui est au centre du projet marseillais, c'est presque ça la question que tu poses, c'est-à-dire que là, tu es en train de me dire, oui, ça dépend ce que l'Olympique de Marseille veut faire. Est-ce que l'Olympique de Marseille veut regagner une Ligue des Champions? Bah, c'est tout le mal qu'on leur souhaite, mais c'est très compliqué, vous savez. L'OM, est-ce que l'OM aujourd'hui est à sa place en championnat l'année dernière? Bah, la réponse est oui, malheureusement, parce que le Paris Saint-Germain est un tout. Oui, mais ce sera, bah, tu te rapprocheras peut-être du Paris Saint-Germain avec Thauvin, voilà.
Thauvin,
Le Paris Saint-Germain est trop au-dessus de la mêlée, on le sait pourquoi, il y a des finances qui sont complètement délirantes et qui sont complètement incomparables à ce que l'OM peut faire et à ce que l'OM de McCourt fera. Donc aujourd'hui, la question c'est de dire, avec Thauvin, au moins tu t'assures cette place-là, tu t'assures un certain standing. Parce que si tu vends Thauvin demain, tu vas aller chercher qui pour espérer monter d'un cran? Aujourd'hui, malheureusement, la structure du football européen est ainsi faite que si l'OM, c'est pas d'un meilleur joueur de Thauvin, pardon, que l'OM a besoin, c'est de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour essayer de rivaliser avec les autres. Donc moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, dans la situation financière de l'OM, la situation sportive de l'OM, Thauvin apporte les meilleures garanties. Après, pour ce qui est du vestiaire, du leadership, oui, tu as raison, c'est pas le joueur qu'on imagine. Mais pour l'instant, il y a encore Mandanda et il y aura encore Payet. Donc, à la rigueur, laissons ça aux autres. Mais si lui peut être le leader technique sur le terrain qu'il est et le formidable joueur qu'il a été avant la dernière saison, avant sa blessure, moi je pense que l'OM a tout à gagner à le garder. Et encore une fois, on parlait des finances tout à l'heure pour Saint-Etienne. Il n'y aura pas d'offre à 50 millions pour Thauvin. C'est ça le problème aussi, c'est
A
que.
priori, non.
Et voilà, il le vendrait, il se poserait la question. Mais dans l'état actuel des choses, au moment, à l'instant T, et pareil, Thauvin. Il a été vacciné par Newcastle. Newcastle, c'est l'archétype du faux grand club anglais moyen qui vous met dans la panade, ce qui est arrivé. Je pense pas qu'il ait envie d'aller à Fulham, je pense pas qu'il ait envie d'aller à Crystal Palace. Lui, il vise plus haut, et plus haut que l'OM, bah, ce serait un gros, gros club européen. Donc je pense que les deux parties sont vraiment faites pour s'entendre et que faut que l'OM, évidemment, revalorise le salaire de Thauvin, mais si en plus il lisse ça sur un contrat longue durée, ils seront gagnants, le joueur sera gagnant. Donc je pense qu'il n'y a vraiment que l'intérêt à prolonger Thauvin.
C'est minimum 500 000 euros par mois, hein, donc Florent Thauvin. Donc c'est quand même, c'est énorme dans les finances de l'OM. Je veux dire, c'est ok, tu vas pas chercher quelqu'un sur le marché des transferts, mais il coûte très 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 cher, Florent Thauvin. Et on
Ouais.
sait que la politique salariale de l'OM ces dernières années, c'est ce qui les a mis dans la
Oui,
nasse.
mais
Alors
c'est.
c'est pas forcément Thauvin qui les a mis dans la nasse, puisqu'il a rapporté sur le terrain
Eh oui.
ce qui touchait en salaire, hein. C'est plus les Strootman ou les joueurs comme
Eh.
ça. Mais malgré tout, ça reste quand
Non
même
mais.
un pari très onéreux, Florian Thauvin,
Oui.
même si, et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est un très bon joueur, il a fait de très belles choses pour l'Olympique de Marseille. Je ne dis pas qu'il ne faut pas forcément le prolonger, je dis simplement que construire autour de lui, ce serait se mettre le doigt dans l'œil pour moi pour l'Olympique de Marseille et faire une croix sur quelques ambitions.
Le problème de l'OM, ce que tu dis, c'est pas le salaire de Thauvin, c'est le salaire de Strootman. Voilà, tout simplement. Ce Thauvin, il rend, et je le redis, l'OM, Thauvin, il a coûté juste 5 millions à l'arrivée avec les ventes et reventes vers Lille, vers je vais pas y arriver, Newcastle, je sais pas
Newcastle.
pourquoi je confonds les deux d'ailleurs. Voilà, donc au fond, la différence, elle est là, et je trouve que c'est pas cher payé et que ça mérite un petit effort parce que. On en est toujours à calculer assez on va dire facilement l'intérêt d'un joueur. Juste avec la somme des transferts. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ce qu'il va apporter sur le terrain. Si l'OM se qualifie encore en Ligue des Champions l'année prochaine, si l'OM fait un parcours intéressant en Ligue des Champions, il n'y a pas d'intérêt à ne pas le prolonger. Et je voudrais ajouter une chose aussi, parce qu'il n'en parle pas ce matin, mais l'OM, il va falloir qu'il fasse attention. S'il joue la montre avec Thauvin, il y a quand même un petit risque. Tu l'as dit, jusqu'ici, sa première apparition en Ligue des Champions n'avait pas été formidable. C'est la fameuse année des 0 points de l'OM, c'est pas terrible. Imaginez que Thauvin, là, il fasse une bonne première session de Ligue des Champions sur les 6 matchs. C'est lui qui aura le pouvoir après, parce que lui, il est libre à la fin de l'année. Il pourra dire à l'OM, ah ben non, vous n'avez pas voulu me prolonger, ça m'intéresse plus, je vais peut-être aller dans le club qui va me proposer. Et on en revient tout à l'heure, comme avec Depay.
Mais le contraire est vrai aussi, parce que s'il
Oui.
fait une campagne avec des champions catastrophiques, bah c'est Marseille qui sera en position de force et qui lui proposera un contrat
Mais
raboté.
c'est un quitte ou double. Mais enfin, Marseille ne pourra pas lui proposer un contrat raboté, quoi qu'il arrive.
Sauf s'il n'a pas de marché par ailleurs et que
Oui,
personne
mais
ne veut de lui.
tu peux pas imaginer que l'OM lui dise demain, allez, on te fait 2 ans, 3 ans de contrat et on te divise son salaire par deux.
Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais c'est un risque qu'il prend aussi quand même,
Ouais.
malgré tout, Florent
Mais
Thauvin.
je pense que le
Vas-y.
risque est plus grand pour l'Olympique de Marseille.
Bon, eh ben, ce sera notre conclusion et on va achever cette émission avec un petit duel. Maxime, au départ, on voulait vous parler des meilleurs attaquants du FC Barcelone, de l'histoire, des meilleurs neufs. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, bah, il y en avait deux qui se détachaient quand même assez nettement. Et il y a l'un d'entre eux qui vient de quitter le FC Barcelone. C'est donc Luis Suarez, l'Uruguayen, qui a quitté Barcelone cette semaine pour rejoindre l'Atlético Madrid. Luis Suarez, c'est une histoire incroyable avec le FC Barcelone. C'est beaucoup de buts, c'est des trophées. On va voir tout ça. On va se poser la question, est-ce que c'est le plus grand avant-centre de l'histoire du FC Barcelone? Ou
Au moins au 21e siècle.
au moins au 21e siècle, au moins au 21e siècle. Ou est-ce que cet honneur doit être réservé au grand, à l'immense Samuel Eto'o, qui était le neuf de la plus belle période de l'histoire du FC Barcelone. Voilà. Eto'o ou Suarez, bah, qui c'est le plus grand, tout simplement. C'est le débat qu'on va avoir avec Maxime. Et spoiler, là non plus, on n'est pas d'accord.
Ouais, et puis spoiler, on va vous raconter, parce qu'au début on voulait donc les avant-centres, mais on avait Ronaldo, le Brésilien, évidemment, mais 1 an c'est pas assez. Et on trouvait qu'il manquait un peu trop de joueurs, c'est-à-dire que Stoichkov, on ne pouvait pas le mettre dedans. Donc on était embêtés. Et puis après, si on ouvre aux attaquants, bah évidemment, la réponse, elle était simple pour le meilleur attaquant de l'histoire du FC Barcelone. Donc on s'est dit, on va comparer les deux, parce que ça correspond à ce renouveau du FC Barcelone dans les années 2000. Et moi, je dois dire que. Si j'avais le choix aujourd'hui, on me donnait les deux joueurs, je pense que je prendrais Luis Suarez pour mon club. Voilà. Mais je pense que dans la trace du FC Barcelone et l'importance du joueur, je penche vraiment sur Samuel Eto'o. Je vais m'expliquer pourquoi. Samuel Eto'o, il arrive en 2004 au FC Barcelone. Déjà, on va remettre les choses dans leur contexte. Le FC Barcelone, rendez-vous compte, n'a plus gagné un seul titre national depuis 1999. Je ne sais pas si vous imaginez aujourd'hui, si vous avez moins de 15 ans. Ça vous paraît impossible. Ils n'ont rien gagné. Pas une Coupe du Roi, pas une Liga et pas une Ligue des Champions. C'est la deuxième année de l'ère Laporta qui a déjà ramené Rijkaard comme entraîneur et Ronaldinho. Le Barça vient de terminer deuxième derrière Valence en 2004, ce qui est leur meilleure performance sur les 5 dernières années, sachant qu'ils avaient même fait une sixième place. Alors je ne sais pas si vous imaginez encore, sixième le FC Barcelone. Eto'o arrive avec Ronaldinho, et là, c'est parti, il gagne les deux prochains championnats d'Espagne, plus évidemment cette Ligue des Champions à Paris, à Saint-Denis, pardon, en 2006 face à Arsenal, 2-1. Et il ne faut pas minorer cette Ligue des Champions parce qu'à l'époque, le FC Barcelone n'a pas gagné de Ligue des Champions à part celle de 1992. Déjà, 92, c'est une libération absolue parce que le club se prenait tout le temps les pieds dans le tapis et était vraiment dans l'ombre du Real Madrid qui lui en avait déjà 6 à son actif. Cette Ligue des Champions, elle compte parce que justement, c'est là que ça relance un peu le Barça. Évidemment, ce n'est pas encore le Barça de Guardiola. On sait que Guardiola n'aura pas tellement envie de Eto'o, mais il le gardera encore et il permettra de gagner une deuxième Ligue des Champions personnelle à Eto'o. Il marque encore en finale face à Manchester United en 2009 et après, il part. Mais cette ère d'Eto'o est importante parce qu'encore une fois, il marque le renouveau du Barça. Il est meilleur buteur du championnat d'Espagne en 2006, il me semble, avec 26 buts. C'est une ère d'exception qu'on finit aujourd'hui, avec le temps et par les accomplissements futurs, à oublier. Mais c'est dommage parce qu'encore une fois, la trace d'Eto'o et le poids qu'il a eu dans le renouveau de ce Barça, qui l'a mis aussi d'une certaine manière sur les rails, c'est vraiment pas à minorer à mes yeux.
Toi, tu parles de l'œuvre collective en fait du FC Barcelone. Alors oui, Eto'o est arrivé, mais voilà,
Je
tu
parlerai
parles
de
de
l'individuel après.
tu parles d'une œuvre collective du FC Barcelone. Statistiquement, et tu sais que je suis pas un homme de statistiques,
Ah
mais
oui.
quand on parle de neuf, il faut quand même regarder les statistiques parce que c'est ce qui permet objectivement.
Tu me tends la perche là.
Non mais tu
Ah
permets
oui, mais.
objectivement de les.
Ah oui, je suis d'accord.
Tu es d'accord avec moi.
Non, non,
Le
mais
seul
je suis.
Barcelonais à avoir gagné un soulier d'or hormis Lionel Messi, c'est Luis Suarez. Et je pense qu'au top du top, Eto'o était quand même loin du niveau de Luis Suarez. En termes de buts, de passes décisives, Luis Suarez, donc j'ai regardé ses 216 buts, 111 passes décisives en 317 matchs. Eto'o, ses 230 matchs, 151 buts, 39 passes décisives. Aucun joueur, aucun attaquant de tous ceux qui sont passés de l'ère Messi n'était plus complémentaire avec Messi que Luis Suarez. Aucun. aucun. Tu peux tous les prendre, sans te parler de Zlatan, hein, mais que ce soit Eto'o, Henry, Griezmann, enfin voilà, tu peux prendre tous les attaquants, c'est pas possible. Et il y a d'ailleurs, je crois que Luis Suarez, c'est l'homme qui a fait le plus de passes décisives pour Lionel Messi, égalité avec Iniesta. Neymar, Suarez, Messi, ces trois-là aussi en 2015, ce qu'ils font, c'est absolument exceptionnel. Et je pense que Suarez a eu une part plus importante dans les succès du FC Barcelone, parce qu'il y a eu aussi un déclin de Xavi et Iniesta, voilà, à mon sens, hein, c'est à mon sens, qu'Eto'o dans ceux de son époque. Il a été fondamental, Eto'o, on est d'accord, mais je pense que sa part était moins grande que celle d'un Suarez, parce que Barcelone, c'était pas le grand Barcelone de Guardiola, tout simplement, et il n'y avait pas les deux gars. Iniesta était encore potable, hein.
Oui, non, non, mais...
D'accord. Mais pour moi, Suarez était plus déterminant qu'Eto'o. Ça enlève rien à Eto'o. Le palmarès est à peu près le même. Suarez a une Ligue des Champions en moins, mais un titre de champion en plus. Enfin, c'est voilà, c'est très compliqué.
Ah non, bah c'est pas pareil alors.
C'est pas exactement pareil, mais malgré tout, Suarez aussi dans un FC Barcelone qui dépend plus de lui, parce que dans un FC Barcelone alors, plus faible que celui de Samuel Eto'o.
Il a joué dans un FC Barcelone qui aurait dû être plus fort. C'est autre chose.
2015.
Ouais, même après, ça déraille, mais normalement, tu as parlé de la performance collective, alors tu me connais, moi aussi, pour moi, c'est ce qui passe par-dessus tout. Justement, Samuel Eto'o, pour moi, il a surperformé collectivement grâce à son rendement individuel. Pour moi, Suarez, à l'arrivée, bah, c'est une sous-performance par rapport à toutes les armes qu'a le Barça aujourd'hui. Je le répète...
Que Suarez n'y est absolument pour rien, il a même plutôt porté le FC Barcelone.
Alors, bah si, il est pour quelque chose, parce que tu peux pas l'exonérer, mais c'est pas tellement ça. En fait, mon point aussi, c'est de dire, là, tu me parles des chiffres que Suarez a plus marqué avec le Barça. Déjà, il a plus joué, donc ça aide. Mais au-delà de ça, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, la Liga du début du 21e siècle... Alors, la Liga a toujours appartenu à deux clubs, en gros, le Real et le Barça. Sauf qu'il y a eu un moment où c'était beaucoup plus relevé. La Corogne est champion du monde en 2000, Valence en 2001, je crois que c'est le Real en 2001, Valence en 2002, Real en 2003, Valence en 2004. Il n'y a pas que le Real et le Barça, là, c'est qu'il y avait un vrai niveau global de la Liga qui était fort. Eto'o, il arrive... Aujourd'hui, si tu mets Eto'o dans ce Barça-là sur les 10 dernières années, moi, je pense qu'il plante largement en tant que Suarez, parce que... Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, ce que je regrette tous les jours, on est dans le football des superpuissances, où il n'y en a que pour le Barça, que pour le Real, et les autres, en gros, on s'en fout. C'est-à-dire qu'on met des 8-0, on met des 15-0, on met j'exagère pour le 15-0, on met des 6-0, on met des 5-0, parce que bah, c'est la foire absolue. Toutes les superstars sont ensemble, et les autres ramassent les miettes. Donc c'est aussi ça, pour ça que Suarez a performé. N'allez pas non plus me faire dire ce que je n'ai pas dit, ce qu'il fait avec Liverpool l'année où il marque plus de 30 buts. C'est exceptionnel, et ça dit que Suarez est un immense joueur.
Suarez, il fait une saison à 63 buts, Maxime.
Oui, mais t'es dans un fou. Oui, mais
c'est fantastique. Et 37 passes décisives, me semble-t-il.
Mais alors, je vais élargir le débat. C'est que tous les chiffres, ces 10 dernières années, sont en train d'exploser sur les buteurs. Ronaldo, souviens-toi, Ronaldo Messi a 46 buts et 50 buts en une saison. Zlatan en France, Mbappé en France. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les footballeurs, à l'instant T, sont meilleurs qu'il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans? Ben non, simplement qu'ils jouent dans des équipes, des collectifs beaucoup plus forts, et qu'il y a beaucoup plus de décalage par rapport au reste de la meute. S'il n'y a aucun intérêt, on en revient à la discussion qu'on pourrait avoir tout le temps, c'est toujours le même champion d'Allemagne, c'est toujours le même champion d'Italie, c'est toujours le même champion de France. En Espagne, c'est pas exactement ça, parce qu'il y a au moins deux énormes puissances, mais Eto'o, je le redis, il s'est retrouvé dans un Barça qui était mais loin de tout ça. Et justement, sur son importance, pour moi, elle est gigantesque, parce que tout à l'heure, tu as parlé de 2015 avec le trio Neymar, Suarez, Messi. Bah lui, en gros, c'était un duo. Ils ont fait ça à deux, entre guillemets, avec Ronaldinho. C'est-à-dire qu'ils ont gagné, Ronaldinho, en 2006, il gagne une Ligue des Champions avec deux talents d'exception et des joueurs, évidemment, qui sont en train de monter, parce que Messi est en train d'arriver, Xavi, Iniesta, etc. Mais pour moi, ce qui est difficile à comparer là-dessus, c'est que je pense que la période d'Eto'o est globalement plus équilibré, plus homogène, parce qu'on n'a pas des écarts entre les équipes. Ça ne retire rien à ce qu'a fait Luis Suarez, évidemment, mais je pense quand même que Eto'o a surperformé collectivement par rapport à ce que Suarez a réussi à faire avec le FC Barcelone, parce qu'on en revient, il n'y a qu'une Ligue des Champions à l'arrivée, et il y a beau avoir des championnats d'Espagne, oui, c'est bien. Mais le championnat d'Espagne, si c'est pas eux, c'est le Real, en gros, hormis quand une fois de temps en temps, t'as l'Atlético. Donc, et à l'époque de Eto'o, c'était pas ça. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai du mal à sortir le côté collectif, parce que j'arriverai jamais à faire seulement briller un joueur par ses statistiques individuelles.
Bon, on n'arrivera pas à se mettre d'accord de toute façon, Maxime, mais moi, quand je regarde la colonne but marquée de Luis Suarez par saison, c'est délirant. Enfin, c'est tout simplement délirant.
Ah, mais évidemment.
Et, ah oui, bah, et, bah voilà, pour moi, c'est.
Oui, mais alors.
C'est d'abord ce que doit apporter.
Oui, mais Eto'o, tu vas pas me dire qu'il apportait pas.
Évidemment, non, mais attends.
Il marque en deux finales de Ligue des Champions.
C'est le pendant parfait à Lionel Messi, et je pense que le Barça va s'en mordre les doigts et Koeman le premier de l'avoir fait partir. Parce que je pense que même l'année dernière encore, regardez la déculottée face au Bayern Munich, et ben il y a quand même un éclair de génie de Luis Suarez, et c'est peut-être le meilleur Barcelonais ce soir-là. Voilà, moi je pense que il a pris de l'âge. Mais je pense qu'il aurait été encore capital pour le FC Barcelone l'an prochain. Ah, ça c'est un autre débat. Je crois qu'on a fait le tour, Maxime. On a été très bavard aujourd'hui, mais comme d'habitude, t'as été surtout très bavard comme d'habitude. On se donne rendez-vous malgré tout la semaine prochaine. Si vous avez toujours envie d'écouter les élucubrations de Monsieur Dupuis, voilà. Tu seras là la semaine prochaine, Maxime.
Oui, je suis là. Oui, je suis là. Oui, si tout se passe bien, si Dieu le veut, je suis encore là.
Oui, bah Dieu le voudra, j'espère. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On vous rappelle que vous pouvez retrouver les meilleurs extraits de ce FC Stream Team sur eurosport.fr. Quant au podcast, Maxime, rappelle-nous la petite
Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, Acast, etc. J'en oublie des sans doute des meilleurs encore, mais vous pouvez nous retrouver partout. C'est comme avec le journal, c'est dans toutes les bonnes librairies. Donc a priori, vous pouvez nous retrouver à peu près partout. Et à noter, évidemment, c'est déjà commencé cette semaine avec les qualifications, mais il y a Roland Garros qui démarre sur Eurosport en intégralité. Vous connectez sur eurosport.com, vous avez tout le tournoi, les analyses écrites, les images, les matchs, les highlights, tout ce que vous voulez. Une seule adresse, eurosport.com.
Ouais, si vous voulez rien rater, vous savez où il faut. Allez, à la semaine prochaine, les amis. Maxime, passe une bonne semaine. Reste maquillé, car tu es très très beau comme ça, tiens à te dire. Et merci à Sébastien Laréal, merci à Quentin pour les visuels. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Salut. We'll be right back.